Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le dernier Canu Info du lundi de janvier. Et avec dans les studios Jean-Pierre et Michel Robert en duplex pour aborder toute l'actualité, du moins ce qu'on aura choisi et retenu d'en parler ce soir. Peut-être une ouverture, Robert, tu voulais...
Je vous entends tout à fait mal, très loin, loin.
Alors je vais essayer de faire quelque chose, vas-y. C'est mieux ?
Tu vois, ah, c'est des...
C'est mieux, là.
C'est déjà mieux, là, oui.
Oui,
ça...
À toi.
Oui, on peut peut-être démarrer cette nouvelle année et ce nouveau deuxième journal de l'année. En appui, en soutien à cette pacifiste irlandaise de plus de 90 ans qui a depuis toujours été une militante de la cause à la fois de l'indépendance irlandaise et qui a passé sa vie souvent, y compris dans les prisons ou dans les lieux de police et qui était intervenu il y a quelque temps sur l'aérodrome de Shannon. Shannon, en Irlande, c'est l'aérodrome, c'est la plaque tournante pour les militaires et la CIA américaine, qui ensuite va vers plaque tournante, c'est-à-dire lieu d'approvisionnement, et ensuite direction l'Afghanistan et la région. Et donc, elle était entrée un jour sur le tarmac pour justement manifester son opposition. Elle a un peu bloqué tout le dispositif pendant quelques minutes, hein, parce que je pense qu'elle a été rapidement évacuée. Mais effectivement, au tribunal, ça lui a valu 3 mois avec sursis, mais avec à condition qu'elle signe une lettre comme quoi elle s'engageait à ne plus jamais remettre les pieds sur le tarmac, sur le sol d'atterrissage des avions. Comme elle a refusé, eh bien, à la fin de la semaine dernière, ils sont allés la chercher, la police, et puis ils l'ont mise en prison, cette militante pacifiste irlandaise de plus de 90 ans. Voilà.
Voilà, ça nous sert en quelque sorte de canette, comme on ne pratique plus la canette aujourd'hui, mais on peut y revenir comme ça par des biais détournés de temps en temps. L'actualité du jour, peut-être saluer la signature quand même de la constitution tunisienne. Ça faisait un an qu'on l'attendait, ça faisait un an qu'elle était promise. On finissait par ne plus croire qu'ils allaient arriver à quelque chose. Ben, finalement, si. Une constitution votée par 200 sur 216 députés. Un moment historique, disent les observateurs et même les députés et beaucoup de Tunisiens qui retrouvent là un espoir dans la révolution qu'ils s'étaient fait confisquer à un moment. Sont-ils trop optimistes ? On peut se poser la question puisque tout cela en fait n'est destiné que... a duré, enfin tout cela, pas la Constitution, mais le gouvernement de civils, de personnalités civiles, de technocrates, comme ils disent, qui a été mis en place, doit organiser des élections au mieux à la fin de l'année, et vraisemblablement au mois d'octobre. Donc ce gouvernement est surtout là pour organiser les élections en octobre. Est-ce que les Ennahda, les islamistes, pensent que ces élections leur redonneront une majorité ou pas? En tous les cas, ils ont laissé les choses se dérouler un peu plus démocratiquement dans cette deuxième phase, en acceptant cette constitution qui ne fait pas la part à l'islam qu'eux auraient voulu y mettre. C'est-à-dire, l'islam est toujours reconnu comme religion du pays, mais par contre, on n'assujettit pas un certain nombre de choses. Il y a un caractère civil du pays, il y a une liberté de croyance qui est reconnue, ce qui veut peut-être pas dire un droit à apostropher la religion pour autant. Mais enfin bon, satisfaction générale chez les Occidentaux aussi, qui ne se manquent pas de, qui ne se targuent en disant à tous les autres pays maghrébins, qui, arabes, je veux dire, qui ont connu des révolutions. Voilà l'exemple à suivre. Les exemples sont uniques. Il faut dire que la Tunisie revient d'une tradition avec Bourguiba, qui était un peu dans cet esprit-là. Mais peut-être vous avez aussi quelques remarques à faire sur le sujet, Michel.
Non, c'est un espoir, effectivement, pour la Tunisie et toute la région. Donc là, concernant la mise en place de la Constitution, maintenant, bon, c'est l'application même de cette Constitution qu'il faudra surveiller de près. On l'a déjà vu avec le processus démocratique en Tunisie. Il y a 3 ans, on pensait de fait, parce que le gouvernement Ben Ali allait tomber, que de fait, la démocratisation allait couler de source. Et or, on a vu effectivement que ça prenait toute une autre tournure et il a fallu du temps pour qu'émerge effectivement ce consensus sur ces constitutions-là. Et je pense qu'il faudra aussi, dans la société civile, du temps pour qu'elle soit acceptée de plein pied.
Robert, tu voulais ajouter un mot ?
Non, ça, je crois que vous avez dit l'essentiel.
Eh ben, tu vas nous conduire vers le deuxième sujet. Tu en as un, non ?
Moi, tous les sujets sont essentiels dans notre monde éparpillé en guerre, en conflit interne ou en conflit externe. Je ne sais pas, peut-être on reste voisin et puis on reste toujours dans les vrais faux ou faux vrais printemps arabes, en parlant de cette Égypte qui fêtant le 3e anniversaire de ce qu'avait été cette révolution, eh bien, a connu encore le prix du sang, y compris d'ailleurs, et de la prison, y compris chez ceux qui étaient parmi ceux qui luttaient le plus dans les idéaux il y a 3 ans, c'est-à-dire le troisième courant, qui était ni l'armée, ni les intégristes islamistes, ou simplement les partis se revendiquant de l'islamisme, et qui étaient donc plutôt des gens plutôt liés au mouvement, on va dire, qu'on dirait laïque, dans nos explications ici. Bon, certains se sont retrouvés en prison, sont en prison actuellement, et puis l'armée qui décide finalement que Sissi ferait un très bon empereur, un très bon président de la République.
Oui, il est déjà maréchal, il a pris la voie.
Oui, il a ajouté des barrettes à ses épaules, oui. Et là, l'armée dit qu'il serait un bon président, donc c'est comme si c'était fait, quoi.
Ouais. C'est une tradition en Égypte, puisque à part Mosri, c'est tous des anciens militaires qui ont été présidents dans ce pays.
Oui, mais là, effectivement, si on veut faire la part des choses, quand c'était Nasser, c'était une autre conjoncture. Nasser, d'abord, c'est un coup d'État, certes, c'est des militaires, mais faire un coup d'État, c'est forcément souvent des militaires, surtout que c'était pour abattre une monarchie. Et puis, ça a été aussi pour transformer radicalement la situation, notamment sur le plan économique et social. Bon, c'était une autre prise de pouvoir militaire, celle de Nasser, que celle de Sissi, bien que Sissi prétend qu'il veut être un continuateur de Nasser. Mais il est loin du compte.
Michel ?
Oui. Oui. Que dire qu'on se dirige vers des élections un peu qui sont, comment dirais-je, dont l'issue ne fait pas de doute, à savoir l'intronisation du maréchal Sissi, et qui est, il faut le dire aussi, soutenu par les chancelleries occidentales, alors pas ouvertement, mais en sous-main, ils sont bien contents effectivement de s'être débarrassés quelque part de Morsi. On sait bien que le général Sissi s'appuie financièrement sur l'Arabie Saoudite, en ce moment, c'est tous les proches des frères musulmans et de ces mécènes qatariens qui sont sous le coup, effectivement, de la police proche des militaires. Et on semble s'accommoder un peu de cette situation-là. Donc on est loin là de parler de démocratie, puisque on le voit, il y a la chasse hein, systématique qui est menée dans les rues du Caire et dans les villes d'Haute Égypte de toute possibilité de contestation, tout ce qui s'apparenterait à de la subversion, quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème reste entier pour l'Égypte. Le problème premier de l'Égypte, c'est un problème social. C'était vrai du temps de Moubarak, c'était vrai du temps de Morsi, hein, encore l'année dernière, et ça sera vrai avec le gouvernement qui après ces élections, là, prendra la suite. C'est un pays qui ploie ce poids démographique, sur ce besoin d'une population jeune auquel effectivement il faut donner une activité économique, des rentrées d'argent, et c'est tout ce mécontentement-là qui pointe. Et on voit bien déjà, c'est un État qui est aidé à bout de bras par l'aide occidentale. C'est la raison pour laquelle les militaires, bien conscients de la manne effectivement de crédit que leur accordent les occidentaux et l'armée qui bénéficie de l'aide directe militaire américaine et qui avec le grand allié des États-Unis dans la région, l'Arabie Saoudite, donc entendent bien continuer dans cette voie-là. Mais ces événements-là, donc, il est clair qu'ils ont des répercussions sur le tourisme, hein, qui n'est pas pour rien donc dans le produit national brut de l'Égypte, et que en l'état actuel des choses, on voit pas comment ce pays va dans les années à venir se sortir donc dans ce marasme, alors qu'il se traduit d'un point de vue politique effectivement, parce qu'on voit encore ce week-end, savoir des dizaines de morts, une contestation, enfin, et ça bruit, c'est une société profondément divisée, mais elle le restera tant qu'il n'y aura pas d'issue économique et sociale pour l'Égypte.
Notez au passage qu'ils ont choisi d'inverser les élections en faisant passer la présidentielle avant les législatives. Ça, on peut discuter ce genre de pratique comme ça, mais sans doute on a pensé que c'était plus judicieux pour l'avenir du maréchal Sissi d'être élu d'abord président avant de faire des législatives. Voilà, un autre sujet qu'il faut bien aborder, parce qu'il est quand même très dans l'actualité, et il n'est pas simple, c'est la situation en Ukraine, avec des manifestations de rue qui perdurent dans la capitale et qui ont tendance à s'étendre un peu partout dans le pays. Et il n'est pas simple, parce que d'un côté, bon, Yanukovych, on connaît bien, et puis on sait ses options. En face, c'est beaucoup plus flou. Une opposition qui est quand même très déterminée, très radicale, là, qui construit des barricades, qui tient le pavé de la rue par des moins 15 depuis une semaine, mais qui est composite de gens, au départ, c'était, nous avait-on dit, les pro-européens, mais il y a aussi des groupes nationalistes d'extrême droite, quasiment. Et d'ailleurs, il y a même entre eux des négociations qui doivent avoir lieu quand il s'agit de savoir si on continuera d'occuper certains endroits ou s'il faut accepter les propositions. Yanukovych qui a fait des propositions un peu curieuses, proposant le poste de premier ministre et de vice-premier ministre à des opposants. Ça laisse un peu tout le monde baba et on se demande, les opposants en question se demandent s'il faut y croire et s'engager là-dedans. Bref, à l'heure qu'il est, l'armée n'a pas encore, même s'il y a de la répression, hein, et violente aussi, mais massivement, on n'a pas tiré sur la foule pour dégager la place autour du palais du gouvernement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la situation en Ukraine, Michel ?
une situation qui s'enlise et je pense que Yanukovych et son gouvernement peuvent s'en vouloir effectivement d'avoir voulu voter tout de suite dès le 16 janvier donc c'est cette loi réprimant donc les manifestations donc parce que ça a repris donc de plus belle donc aujourd'hui on en est à une convocation de la Rada du Parlement demain justement pour revenir hein, on va de nouveau débattre sur ces lois pour revenir et voir si on peut atténuer un peu le mécontentement de la rue. Toujours est-il, tu as évoqué l'opposition reste divisée, si ce n'est effectivement le point commun, c'est ils sont contre ce Yanukovych et contre ce qu'ils appellent sa clique, hein, contre le système qui l'a mis en place. La posture de Yanukovych de proposer donc à l'opposition de se joindre au gouvernement, c'est assez sournois aussi. Hein. On propose le poste de Premier ministre au bras droit de Timoshenko, qui est actuellement en prison, Arseniy Yatsenyuk, et le poste de vice-ministre à l'ancien championne du monde de boxe Klitschko, sachant que de toute façon le Parlement sera toujours sous le contrôle du Parti des Régions, donc qui est fidèle à Yanukovych. Donc c'est une situation de blocage et c'est une manière aussi, surtout, d'isoler la partie la plus extrême, le parti nationaliste, pour pas dire d'extrême droite, Svoboda, Liberté, d'Oleg Tchagnibok, donc qui vient de la région de Lvov, la région où on va dire les plus ukrainiens des Ukrainiens, et qui elle effectivement est arrivée à Kiev et prône effectivement le renversement de manière violente hein, de ce qui est du régime qui s'appelle du régime Yanukovych. Donc on voit bien d'un côté volonté de casser un peu l'opposition en lui proposant un semblant de pouvoir et isoler les franges les plus violentes donc, de cette opposition, ceux qui sont proches du parti Svoboda.
Michel, Robert, tu voulais dire quelque chose de plus ?
Non, on peut aussi rappeler que un accord est intervenu avec la Russie. Qui a concédé près de 15 milliards, je pense, c'était en dollars, mais sur espacé dans le temps, mais c'était quand même 15 milliards, et on comprend bien que l'opposition, enfin du moins une partie de l'opposition, ne veut pas que les effets de cette manne apparaissent, parce qu'effectivement, si cette manne apparaissait rapidement, eh bien, c'est évident que des gens estimeraient que, certes, il y a lieu toujours de se battre pour une entrée dans l'Europe, mais que c'est pas nécessaire, peut-être, d'utiliser les moyens qui sont actuellement utilisés. Donc, en bloquant pratiquement la marche de l'État, eh bien, ils empêchent cet État de mettre en œuvre ce prêt russe. D'ailleurs, on ne sait même pas si les Russes sont actuellement en possibilité de dire qu'ils vont donner une première tranche, parce qu'ils ne savent pas trop cette première tranche où elle va aboutir. Supposons que demain, une bande d'énervés s'empare de l'équivalent de Bercy chez eux, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est-à-dire ministère des Finances, et puis donc s'empare des leviers. Des leviers de la finance. Donc, on sent bien combien cela pèse aussi dans la situation actuelle. Mais ce qui est remarquable, c'est que, en dehors de cet accord avec les Russes, la Russie ne fait pas du tout pression, sauf à dénoncer ou même à regretter surtout que trop de pays se mêlent de la vie, pays extérieurs se mêlent de la vie des Ukrainiens.
Voilà. D'autres... Oui.
Oui, peut-être, eh bien, évoquer ce qui se passe à Genève, C'est-à-dire, c'est quand même important, parce que ça peut, on est loin du compte, mais ça peut déboucher sur la fin des hostilités en Syrie, entre, là aussi, tu parlais d'une opposition composite chez les Ukrainiens, mais on sait que en Syrie, l'opposition est devenue très composite au fil des années, démarrée sur un semblant de printemps arabe. Bon, il y a une réalité de protestation, elle s'est ensuite retrouvée sous l'emprise de vieux règlements de compte qui remontaient effectivement à d'autres périodes où, ayant été victime de violentes répressions il y a quelques décennies, les sunnites de Syrie ont profité de la situation pour essayer de se venger de cette histoire qui leur a été défavorable dans le passé, donc, et ont pratiquement mis la main sur la protestation avec ce que l'on sait aujourd'hui de leur comportement, enfin de certes des courants, enfin déjà tout ce courant sunnite s'est vite trouvé débordé par les djihadistes, c'est-à-dire des courants qui sont sunnites, hein, qui sont de la même origine, mais qui effectivement mènent depuis plusieurs années effectivement une lutte violente contre tous les régimes arabes, quels qu'ils soient actuellement dans toute cette région, hein, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Afghanistan et le Pakistan, bon, tout le secteur. Alors à Genève, on a trouvé un premier point d'accord qui sans doute était possible, on le savait, c'était laisser des passages pour que des gens quittent par exemple Homs qui est occupé par les djihads et qui donc était on peut dire tenu encerclé par l'armée de Bachar. Donc l'armée de Bachar ouvre des brèches pour pouvoir laisser sortir tous les gens qui veulent sortir, et nombreux sont ceux qui veulent sortir, parce que d'abord il y a ceux qui sont pas du tout d'accord forcément avec les djihadistes, et puis il y a surtout une situation de désolation, de misère liée aux destructions, etc. On a abordé aussi la question globale humanitaire, aussi bien pour ceux qui sont au Liban que ceux qui sont en Turquie. Bon, c'est remis entre les mains d'experts qui travaillent sur la question. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a abordé effectivement ce pourquoi les uns et les autres sont quand même venus, c'est-à-dire les opposants pour exiger le départ de Bachar el-Assad, et puis les représentants de Bachar pour dire qu'il n'en est pas question, que Bachar restera aussi longtemps que le peuple ne lui aura pas signifié par des élections qu'il ne veut plus de lui. Blocage donc aujourd'hui à Genève sur le problème syrien. On s'y attendait. Est-ce que le courageux monsieur médiateur Brahimi peut faire quelque chose? On n'en sait pas trop. On sait très bien que les choses avanceront si effectivement Américains et Russes, c'est-à-dire Kerry et Lavrov, proposent quelque chose ensemble.
Michel?
Oui, enfin, on voit bien que déjà... La grande victoire de Bachar el-Assad, c'est d'avoir été associé déjà à Genève 2. Hein. Faut-il se rappeler que Genève 1, c'était la mise en place donc, d'une grande conférence sur la Syrie, mais avec point numéro 1, Bachar al-Assad ou son régime n'avait pas voix au chapitre. Genève 2, les représentants du gouvernement syrien, donc de Bachar al-Assad, sont à la table de négociation, même si pour l'instant on n'a pas de pourparlers direct. Hein, on est dans le plus grand des secrets, on ne sait pas trop comment justement se font ces pourparlers. En tout cas, d'un point de vue diplomatique, le régime syrien a compris l'intérêt effectivement de jouer la carte des négociations. D'un, il n'y a pas du tout de limitation dans le temps. Hein. Genève 2, c'est ouvert. Il n'y a pas de date butoir. Il ne faut pas trouver des résultats avant le 1er mai, etc. Donc ça peut durer, pour l'instant, du temps et du temps. On a parmi les interlocuteurs un allié de poids, la Russie, qui va jouer justement en ce sens-là. Après tout, les négociations israélo-palestiniennes durent depuis des douzaines et des douzaines d'années. Alors on est... pourquoi pas en posture aussi de faire durer la chose. L'intérêt diplomatique de Bachar al-Assad, c'est de montrer un peu la schizophrénie un peu de ces négociations. D'un côté, vous avez une représentation de l'opposition armée, hein, parce qu'il y a une opposition civile, hein, au régime de Bachar al-Assad, qui est toujours à Damas et qui n'a pas pris les armes. Hein, il faut le souligner, ça aussi, qui compte au jour d'aujourd'hui d'un point de vue politique le régime de Bachar al-Assad, qui demande effectivement des élections anticipées mais qui n'appelle pas à prendre les armes, qui n'a pas pris les armes. De l'autre côté, vous avez une opposition armée qui veut se débarrasser du régime de Bachar al-Assad. Et le problème pour cette opposition, c'est que d'un côté, vous avez les chancelleries occidentales qui les ont choisis un peu triés sur le volet, hein, il faut qu'ils soient propres sur eux, qu'ils soient présentables, on va les amener à Genève. Et de l'autre côté, vous avez sur le terrain, eh bien, la réalité des choses, à savoir que l'opposition armée est composée de plus de 80% de gens qui sont infréquentables pour nous, occidentaux, hein, je parle, à savoir des gens affiliés à Al-Qaïda ou affiliés à des salafistes. D'où l'intérêt de Bachar al-Assad, c'est de négocier avec une partie qui, sur le terrain, est de moins en moins représentée, au point peut-être effectivement puisque les dissensions sont déjà très très nettes, hein, entre la représentation politique de l'opposition et les troupes sur le terrain, puisqu'il y a des conflits armés ouverts, hein, entre ces différentes branches, et ce qui va permettre justement au régime de Bachar al-Assad et donc à ses alliés du Hezbollah iraniens et chiites irakiens qui sont aussi présent en Syrie, de mater donc le djihadisme soutenu par les Qatariens et surtout par l'Arabie Saoudite présent sur le territoire syrien, tout en continuant à négocier tranquillement avec ses opposants propres sur eux.
Ouais, on peut penser qu'avec tout ça, la guerre est loin d'être finie.
Tout à fait, c'est le propos. C'est justement, la guerre est très très loin d'être finie. Là, on est sur le terrain maintenant dans un avantage relative, hein, pour le régime en place, sachant que la démographie pèse pour l'opposition. Hein, 60% de la population est quand même sunnite, hein, plus de 60%. Et donc il est clair, même si certains responsables et une partie de la bourgeoisie sunnite est inféodée au régime, il n'empêche que sur le long terme, le régime de Bachar al-Assad, après 3 ans de conflit, ne peut pas sortir à moins d'une répression totale, vainqueur de ce conflit-là. Mais en tout cas, le statu quo, donc lui, c'est ce qui va prévaloir pour l'instant.
Mm-hmm. On peut peut-être ajouter un élément qui peut aider demain à avancer, c'est à voir. C'est la présence des Iraniens qui, pour l'instant, n'ont pas droit de participation sous pression surtout des Européens, Français, les premiers à refuser que les Iraniens y participent, alors que les Russes, et puis à la limite, l'ONU était, par son secrétaire général, était partisan de la présence des Iraniens dans cette conférence. Et les dernières interventions de Rouhani, le président iranien, montrent que effectivement il essaye de s'installer lui aussi en médiateur. Alors, je veux dire, il peut pas être médiateur en étant complice de Bachar, et il peut à la fois. Et peut-être que là aussi, il y aura un petit espoir qui subsiste, pour autant que il puisse s'asseoir à la table de discussion.
Voilà, je peux rajouter la position là des Européens, hein, parce que l'Union Européenne, sur ce sujet-là, est complètement ridicule. Comme tu le disais, l'Iran est présente, hein, c'est l'appui logistique numéro un donc, du régime de Bachar al-Assad. Il donne donc des techniciens militaires pour aider les troupes du gouvernement. Il donne aussi des forces vives. S'il abandonne le régime, on sait effectivement que le vent peut tourner très très rapidement. On ne comprend pas du tout là la position de l'Union européenne, hein, c'est-à-dire l'Iran et doit être associé à la résolution de ce conflit-là. Donc, vouloir le maintenir de côté, c'est vouloir de fait maintenir de fait un statu quo, comme je le disais précédemment, ou vouloir faire en sorte que ça dure encore plus longtemps.
Voilà pour ce sujet sur lequel on reviendra forcément. L'heure avance, on va peut-être conclure notre rubrique internationale. On n'aura pas parlé de tout, mais il faut en laisser aussi pour les autres journaux de la semaine. Il y a des élections en Serbie bientôt, non ? Ou en cours ?
Il devrait y en avoir. Il devrait y en avoir. C'était toute la question.
C'est sans problème ?
C'est-à-dire que ça ne réglera absolument rien.
C'était quelles élections, là ? Les législatives ?
Les législatives. Alors, donc, toute la question, maintenant, elle est d'ordre technique. C'est tout tourne autour du Kosovo. Faut-il de nouveau appeler à des élections pour les quelques centaines de... un peu moins d'une centaine de milliers de Serbes qui restent présents dans la province. Est-ce que maintenant qu'on a entamé des discussions avec les autorités de Pristina, je parle pour les Serbes, on peut se permettre effectivement d'appeler à des élections, alors que de fait, ce qui a été négocié sous l'égide de l'Union européenne, de fait, c'est un début de reconnaissance de l'entité kosovare indépendante par la Serbie, sans le dire, quoi. Donc, bon, tout tourne autour de cette question-là, mais sur l'échiquier politique, absolument rien ne devrait changer.
Hein. Ok. Pause musicale, Robert, tu voulais un dernier sujet rapide ou tu...
Non, pas un sujet, mais simplement apporter une précision. J'ai un peu vieilli Margareta Darcy quand on a ouvert le journal La Pacifiste Irlandaise. Elle n'a que 79 ans. Je lui avais donné un âge supérieur, mais par contre, elle est atteinte d'un cancer, et ce qui rend plus odieux encore son incarcération.
Voilà, courte pause musicale avec Jean-Luc Dangouin qui sera sur scène à la petite salle Sous le Caillou, là, dans le 4e à la Croix-Rousse, demain, 28. On l'écoute dans une de ses compositions.
Je voudrais que les
Jacques Dangouin interprétait sa composition Les Élingues. Il sera donc demain sur scène à Sous le Caillou. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 27 janvier avec Michel Jean-Pierre et Robert en duplex. On va aborder la rubrique nationale, peut-être avec cet immense sujet, la montagne accouchera d'une souris, enfin pas pour tout le monde, le pacte de responsabilité ou d'irresponsabilité, c'est selon comment on le comprend, avec aujourd'hui le Premier ministre qui recevait à la queue leu-leu un petit peu tout le monde, les syndicats pour la forme, le MEDEF pour bien les entendre et qu'ils se comprennent bien. Donc ces patrons qui n'arrêtent pas de pleurer depuis des mois et des années et qui s'en mettent plein les fouilles, puisque comme l'UMA qui s'est donné la peine de faire une enquête nous le montrait aujourd'hui, le taux de marge des entreprises depuis 35 ans est le même, entre 25 et 30% en gros. Le taux d'investissement depuis 35 ans est le même, entre 19 et 20%, donc il n'y a pas du tout péril en la demeure. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est le taux de marge financière. Les dividendes sont passés de 1,75% en 35 ans à 14%. Et si on pouvait les passer à 18, 20 ou 25, ce serait encore mieux. C'est sans doute l'objectif de ce pacte, puisqu'on leur a déjà offert 30 milliards, ils en réclament tout de suite 60. Les contreparties, il est bien évident qu'il n'en est pas question. On n'a pas parlé d'engagement, on a parlé d'un objectif. Si les commandes reviennent, on pourrait embaucher 1 million de salariés. Prenez date, vous pourrez mesurer ça à l'aube des années qui viennent. En tous les cas, la trésorerie accumulée en Europe du patronat depuis 2007 s'est améliorée de 346 milliards d'euros. Dans ces conditions, qu'est-ce que le pacte de responsabilité peut apporter aux travailleurs et aux citoyens de ce pays, dont le chômage, puisque là on vient de faire le bilan du chômage annuel, l'engagement de Hollande en 2013, vous verrez, le chômage aura diminué, ben non, pas de peau, il a augmenté et il continue. Alors maintenant on commence à parler de, oh, si on arrivait à le stabiliser à ce niveau-là, ben, ce serait vachement bien. Ce serait vachement bien en tous les cas, pas pour les 5 à 6, voire 8 millions de chômeurs qui sont dans la panade. Voilà, peut-être mes collègues ont aussi quelque chose à ajouter sur la question. Robert ?
Oui, ça démarre sur un mauvais chiffre pour Hérault. Le MEDEF, ça lui est bien égal que le chômage augmente. Au contraire, plus il y a de chômeurs, plus ça lui permet d'être fort sur... ce qu'ils appellent abusivement le coût du travail. Alors que aujourd'hui, le vrai problème, ça serait de faire, bon, tu l'as fait apparaître, le coût du capital qui coûte très cher et produit l'effet de pauvreté qu'on observe, et pas seulement en France en ce moment. Que dire d'autre ? Bien, les syndicats, normalement, eux, devraient être, non pas pour s'en réjouir, naturellement, mais devraient être confortés dans la dénonciation de ce que certains appellent une mascarade, cette grande discussion autour de la responsabilité que Hollande confie au patronat et à sa branche grand capital, on va dire, le MEDEF. Ne tenant effectivement pas compte de cette diversité, c'est le MEDEF qui commande, et tant pis pour les petites et moyennes entreprises, tant pis pour les très petites entreprises, eux ne sont que finalement les sous-traitants du MEDEF de ce point de vue. Ça ne changerait donc pas grand-chose. On voit, eh bien, si on fait la liaison, on voit que les plans sociaux, aucun n'a trouvé de satisfaction dans une résolution favorable aux futurs licenciés, et que là encore, l'immobilisme du gouvernement avec un Montebourg qui est complètement ficelé par cette idéologie de l'offre. Alors, on croit qu'on fait un débat abstrait entre l'offre et la demande, pas du tout. C'est, quand on parle de l'offre, ça veut dire qu'on demande au patronat de créer des emplois et puis de réduire le chômage. Alors qu'une politique de la demande, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on donne eh bien, à l'ensemble du peuple les moyens de vivre mieux, ben, en consommant plus. Alors on peut toujours discuter quoi consommer, mais globalement en consommant plus, et donc en impulsant la création de biens, de richesses et de valeurs, et donc résolution du chômage par la demande et non pas par l'offre. C'est pas un débat théorique abstrait, mais Hollande décidé que ce serait l'offre qui serait sa vision de l'avenir. Et donc, il dit au MEDEF, chiche, je vous donne 60 milliards, soyez honnête, et avec ça, faites descendre le chômage. Non, c'est un propos, s'il n'était pas scandaleux, on pourrait dire que c'est d'une grande naïveté, mais... personne pense que Hollande est un personnage qui fait la politique naïvement.
Voilà pour ce sujet. Donc, on peut peut-être parler social un peu. Airbus qui annonce 5 800 diminutions d'emplois sur 144 000 d'ici 3 ans. Pourtant, Airbus est on ne peut plus bénéficiaire. Knorr qui, dans le Haut-Rhin, annonce 46 licenciements sur 390. Pareil qu'on ne mange pas assez de soupe pour maintenir tous ces emplois. Le charcutier Jean Cabi qui, lui, a 150 emplois de trop pour pouvoir céder sa société à des spéculateurs. Et puis PSA, qui c'est peut-être le pompon, qui avec 1 milliard d'euros de subventions d'entrée du gouvernement dans le capital, on pensait que toutes les caisses étaient vides, ben non, vous voyez, on a trouvé 1 milliard pour Peugeot sur les 3 milliards d'augmentation de capital, donc l'introduction du groupe japonais là-dedans. Déjà qu'on lui avait collé 7 milliards de garanties de l'État pour ses emprunts. Eh bien, tout ça n'est même pas assorti non seulement d'un bon vouloir de ne pas licencier de Peugeot, mais d'une interdiction de licencier, alors que le gouvernement soutient à fond les opérations de cet industriel. Tu en as peut-être d'autres, Robert, ou d'autres ?
Non, la liste est trop longue, et puis à 8 heures, on n'aurait pas terminé la liste.
Non, c'est toujours bien de quand même donner une petite idée de ce qui se passe pour les travailleurs de ce pays. Quoi. Autre sujet, tu avais envie de parler de quoi ?
On peut parler des partis politiques qui se préparent pour les municipales du mois de mars. Et l'UMP tenait son conseil national avec un Copé qui... veut montrer qu'il est le chef, et pour ça, eh bien, il propose un programme, une stratégie ultralibérale, c'est-à-dire allant quasiment au-delà de ce qu'a fait Sarkozy. Sarkozy qui était tenu quand même par une opposition à l'époque, celle qui est au pouvoir aujourd'hui. Et donc, un Copé qui tente de calmer tous ceux qui souhaitent accéder au pouvoir de cette droite, ceux qui souhaitent simplement prendre le pouvoir, et puis ceux qui souhaitent que stratégiquement fassent quelque chose pour empêcher le Front National de grappiller dans ses rangs. Alors c'est donc un programme ultra-libéral, violent, comme dit la presse, sur cette volonté d'aller encore plus loin dans la dérégulation et dans les privatisations tous azimuts.
Alors, si on atterrit un petit peu en matière de municipale et qu'on atterrit à Lyon, eh bien, le Front de Gauche et le GRAM, donc, qui se sont associés, avancent des têtes de liste dans tous les arrondissements. Je ne pense pas qu'ils aient bouclé les listes, mais en tous les cas, il y a des têtes de liste. Dans le premier, Nathalie Perrin-Gilbert donc, remet ça. Donc c'est là une alliance entre beaucoup de communistes, bien sûr, et puis le GRAM qui se dessine à Lyon. Les neuf têtes de liste ont une moyenne d'âge de 35 ans, et la parité est presque respectée, presque. C'est dire si le rajeunissement de ces groupes politiques est conséquent. Puis il y a des villes comme Marseille où les Verts, là, s'allient avec le PS pour ne former qu'une liste. Et peut-être une déception, je ne sais pas, pour le Front de Gauche. T'en penses quoi ?
La rencontre entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon de l'autre semaine a fait du bien à tout le monde, visiblement, puisque on était au point de rupture et d'explosion du Front de Gauche. Bon, l'explosion n'aura pas lieu. Chacun est resté sur ses positions, mais incontestablement, la machine du Parti communiste est beaucoup plus forte que la petite et jeune machine de Mélenchon. Et donc, Mélenchon et le Parti de Gauche, eh bien, ils ont vu que finalement, il fallait accepter ce rapport de force avec le Parti communiste qui a une politique, dit-il, très pragmatique et qui, comme dans certains cas, accepte même que ses militants se partagent entre ceux qui seraient avec le PS et ceux qui seraient avec le Front de Gauche. Il donnait une statistique, je crois que j'ai lu ça, le Parti communiste dit que dans les villes de plus de 20 000 habitants, il est tête de liste à 50%, et à 40%, il est dans des listes de Front de Gauche. Voilà, donc, une manière de dire, finalement, on fait moitié-moitié.
Voilà, d'autres sujets à aborder. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, le cumul des mandats, donc ça a été voté, ça c'est assez sympathique, ça devrait complètement changer le paysage politique français. Ça a l'air de rien, on ne peut pas développer ici, mais ça changera beaucoup de choses. Le seul inconvénient, c'est pourquoi en 2017, pourquoi pas en 2015 ? Visiblement, il y a des situations de rente qui s'arrangent pour perdurer. Une autre dans le même genre, c'est celle de Colomb, qui accepte bien que le maire de la, enfin le dirigeant de la métropole ne soit pas le maire de Lyon, mais seulement, tenez-vous bien, vous êtes assis à partir de 2020. Autrement dit, d'ici là, il sera usé, il sera peut-être mort de vieillesse. Donc il y en a qui se débrouillent bien pour garder leur précaré, un peu comme les banquiers d'ailleurs l'ont fait quand il s'agit de réguler les systèmes bancaires. On a aussi mis là une échéance à 2020. En attendant, les paradis fiscaux peuvent prospérer et d'ici là, on peut espérer pouvoir retourner ce genre de décision.
Oui, on se souvient que c'est les sénateurs qui ont fait de la résistance sur cette loi cumul et qui ont obtenu, y compris ceux du PS, peut-être même ils étaient forcément en première ligne puisque la gauche est très légèrement majoritaire au Sénat, mais que très légèrement. Et que pour pas perdre, s'il va y avoir effectivement des élections, comme c'est toujours le cas au second degré, il va y avoir les élections cantonales l'année prochaine. On ne parle pas des européennes, sur les régionales, il y aura forcément des effets. Il y aurait eu des effets de cette loi si elle avait été appliquée dès l'année prochaine. Donc, on laisse passer les régionales, on laisse passer les cantonales avec la nouvelle définition des cantons, et c'est pas une mince affaire, là encore. Et puis, on attend 2017 pour que cette règle du non-cumul s'applique. Voilà, c'est un compromis interne au PS. Oui.
Un nouveau scandale touche Hollande. Bon, qu'il aille voir sa Julie en scooter, c'est son problème, mais qu'il prenne un scooter italien alors qu'il y a des scooters fabriqués à Mandeur chez Peugeot, ça c'est vraiment inacceptable et inadmissible, et les salariés de Mandeur l'ont bien fait savoir. Quoi.
Enfin, il a une... le casque est français.
Hein, oui, il a une toute petite excuse, le casque est français.
Et l'entreprise qui fabrique ce genre de casque, elle est en rupture de stock. Hein. Il n'arrive pas à fournir.
Voilà, est-ce qu'on a d'autres sujets un peu plus sérieux? Ben, sur les impôts, il y en a deux rapides, oui. McDo au Luxembourg arrive à faire, vous savez, le système des filiales bidons, à faire sortir 2,2 milliards de bénéfices qui seront imposés à 1,85% au Luxembourg, alors qu'il l'aurait été à 33,3% en France. C'est ça l'Europe aussi. Et puis, il paraîtrait, j'ai eu cette information, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle est de source fiable quand même. La vignette automobile va être réintroduite, pas avant les élections municipales, juste après, mais pour l'année 2014, elle sera payable en septembre 2011. 13 ans après, les impôts, Hollande fait vraiment tout pour servir la soupe au FN avec ce genre de décision.
On annonce que Sarkozy va avoir de nouvelles difficultés avec la justice, puisque la grande opération 2011 à Toulon, finalement, elle était payée avec les sous du contribuable, et puis c'est pas tout à fait normal. Et alors c'est Raymond Avrier. Alors Raymond Avrier, c'est comme Étienne Tête, hein, ce sont des Verts. Raymond Avrier, c'est à Grenoble. Étienne Tête, c'est à Lyon, et qui débusque depuis des années toutes ces affaires d'utilisation frauduleuse des fonds publics. Et en ce qui concerne donc Sarkozy, c'est Raymond Avrier qui avait, mais ça remonte à plusieurs mois naturellement, qui avait monté le dossier, et il en avait monté d'autres dossiers contre l'ancien maire de Grenoble, je me souviens plus son nom. Bon. C'est des personnages courageux, Raymond Avrier et Étienne Tête. Même si effectivement on voit aujourd'hui que, y compris les Verts, ils ne sont pas insensibles à certains effets de ce qui peut être par la justice considéré comme de la corruption.
Bon, je t'arrête Robert parce qu'on arrive à la fin de notre heure. Juste une annonce rapide. Le Tartuffe de Vercelletto sera donné à Charlie Chaplin demain, mercredi et jeudi. Frédéric Bovin sera à tout bout de champ le 30 et le 31. Et pour les Grenoblois ou pour les Lyonnais qui s'intéressent, qui veulent aller à Grenoble, commence ce samedi 1er février les rendez-vous de la Résistance à la bibliothèque Yacine, à Grand Place. C'est avec la projection à 15h30 du film Une vie avec l'Oradour de Patrick Serraud qui sera présent. Ces manifestations sur lesquelles on viendra durent jusqu'au mois de juin.
J'ajoute juste une phrase, une manifestation culturelle, c'est autour de l'œuvre d'Armand Gatti qui a fêté ses 90 ans ces jours-ci et qui sera samedi à l'ENSAT à Lyon de 14 à 19h et avec Armand Gatti.
Et manif samedi au Terreau à 14h30 pour le droit à l'IVG en Espagne et ailleurs. Ce Canet Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pourrez le réentendre sur Internet. Nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canet. Ne quittez pas l'antenne.